les esclaves hébreux ont fui l'Égypte. Ils sont poursuivis par le grand pharaon, le roi d'Égypte, avec tous ses soldats d'élite. Et puis devant eux surgit la mer, un obstacle infranchissable. Ils se croient perdus et puis voilà, la mer s'ouvre, ils passent à pied sec. Et puis quand les Égyptiens arrivent, la mer se referme. Ils sont libérés de ces Égyptiens qui les poursuivaient et ils sont sains et saufs. C'est un récit épique. En tout cas, si on se place du côté des Hébreux, c'est un récit joyeux. C'est aussi un récit spectaculaire et c'est un peu le problème peut-être de ce genre de récit, c'est que on a pour la plupart d'entre nous en mémoire la manière dont le cinéma hollywoodien a pu représenter cet épisode. Et on imagine, comme dans le film Les Dix Commandements de Cécile B. DeMille en 1956, une musique péplum et puis la terreur qui envahit le camp des Hébreux, et puis Moïse qui surgit, et puis voilà, la mer qui s'écarte et la musique augmente. Mais voilà, le problème, c'est que notre imaginaire est souvent enfermé dans cette image, et on n'arrive plus à se défaire de cette représentation. Et alors, si on aime les effets spéciaux, c'est très très bien. Mais si on veut se dire qu'est-ce que ce texte peut nous apporter aujourd'hui, c'est des fois un peu plus compliqué, du coup, parce qu'on bute tout de suite sur une question, mais notre rationalité, comment peut-elle comprendre un tel événement ? Est-ce que on peut arriver à imaginer comme ça la mer qui s'écarte avec deux murailles d'eau qui tiennent et puis les Hébreux qui passent au travers ? Pour le dire autrement, est-ce que c'est une histoire vraie qu'on nous raconte ? Et c'est cette question que je voudrais développer avec vous. Est-ce que ce récit est vrai ? Alors je vous donne tout de suite la réponse, enfin ma réponse en tout cas. C'est que oui, ce récit est vrai. Mais je vais vous expliquer quelques points qui me paraissent importants pour comprendre bien ce qu'il nous dit. D'abord, la première chose qui est importante de se rappeler, c'est que la Bible, donc ce livre qui est au cœur de notre foi chrétienne, ce n'est pas un livre qui a été inventé de toutes pièces. C'est un livre qui rend mémoire de ce que des hommes et des femmes ont pu vivre, expérimenter, croire, chercher, trouver parfois leurs errances, leurs espérances, et qui, de génération en génération, se les sont partagées et les ont mises par écrit pour que, encore après, on puisse encore le lire. Des hommes et des femmes qui avaient les mêmes expériences que nous, les mêmes souffrances et les mêmes questions existentielles que nous. Et donc la Bible est un témoignage de ces personnes. C'est un témoignage que, dans la foi, nous recevons comme étant un témoignage inspiré, c'est-à-dire que nous entendons, derrière le récit de leurs expériences et de leur partage de foi, qu'il y a quelque chose de la parole de Dieu qui les a traversés, qui traverse ce texte et qui peut nous traverser à notre tour. Ça rend témoignage à Dieu. Non pas à Dieu comme à une théorie ou à un principe, mais à Dieu comme une personne, c'est-à-dire quelqu'un avec qui on peut être en relation vivante, on peut cheminer avec, on peut avoir l'impression qu'il n'est pas là, on peut questionner, on peut se battre avec un Dieu qui chemine avec les siens, qui souffre et lutte avec eux, parfois même contre eux, mais toujours qui les accompagne et qui les amène vers la liberté. Voilà ce que la Bible nous transmet, ce témoignage de ces hommes et des femmes qui disent ce qui est vrai pour eux, leur foi, leur libération. Et l'expérience fondatrice pour le peuple de l'Ancien Testament, c'est la sortie d'Égypte. C'est l'expérience fondatrice parce que jusque-là, ils n'étaient pas un peuple, ils étaient des esclaves, donc des personnes qui n'avaient aucun statut, qui étaient simplement des outils, qui pouvaient être jetés du jour au lendemain, qui étaient simplement exploités, et puis tout d'un coup, ils vont devenir un peuple, libre et fier, et qui marche. Enfin, quand je dis tout d'un coup, c'est pas tout d'un coup, en fait. C'est au bout d'un long processus dont la Bible nous rend compte. Long processus parce que, comme dans toute histoire humaine, il ne suffit pas que l'opprimé aille dire à l'oppresseur « Maintenant, écoute, ça suffit, je m'en vais. » L'oppresseur n'est pas d'accord. Quand Moïse va voir Pharaon, pour lui dire « Laisse partir mon peuple », eh bien Pharaon dit « C'est hors de question ». Et on le comprend, si on se met deux minutes à la place de Pharaon, il ne va pas laisser partir cette main-d'œuvre gratuite qui aide à construire tous ces grands monuments que l'on connaît et qui résistent encore au temps et qui sont en Égypte. Alors c'est long, il y a tout le récit des allers et retours de Moïse auprès de Pharaon, les plaies d'Égypte, les épreuves qui tombent sur les Égyptiens, et chaque fois le Pharaon est prêt à laisser partir, mais il s'endurcit encore plus, et puis finalement la nuit de Pâques, et puis les Hébreux qui mangent debout parce qu'ils vont partir dans la nuit, et puis ils partent dans la nuit, ils s'enfuient, ils s'échappent, ils courent vers la liberté, et puis voilà la traversée de la mer qui est le signe de cette liberté, l'entrée, non pas encore dans la terre de la liberté, mais dans le désert qui va conduire à la liberté. C'est long en fait, 40 années, deux générations, des épreuves, des doutes, des révoltes, et enfin, la terre promise, là où coule le lait et le miel. Voilà, c'est ça, l'expérience fondatrice pour le peuple biblique. C'est une expérience tellement fondatrice qu'elle est la source de toute la foi. Et que du coup, Dieu est considéré avant tout comme un Dieu qui libère, un Dieu qui délivre, un Dieu qui accompagne les siens sur le long chemin qui mène vers la liberté. Alors la Bible nous rend compte de cette histoire. C'est un livre d'histoire. Mais pas un livre d'histoire comme on aimerait parfois que soit un livre d'histoire, c'est-à-dire qui nous donnerait des faits objectifs, dans l'ordre, le plus rationnel et le plus proche possible des événements. Un tel livre n'existe d'ailleurs pas. Même les historiens d'aujourd'hui n'écrivent jamais une histoire neutre et objective. Toute histoire est forcément une interprétation des événements, une mise en perspective, une recherche de trouver du sens. C'est pareil pour le texte biblique. Quand les hommes de la Bible mettent par écrit leur expérience, leur but n'est pas de raconter un récit qui se serait passé autrefois. Il est de dire ce récit fondateur de leur propre expérience d'un Dieu qui libère. Elle est quête de sens, recherche de sens. Elle a un sens qui nous est transmis. Et parce que ce sens est vrai pour eux, alors ce récit dit le vrai. Il dit le vrai de cette foi en un Dieu qui libère. Je viens plus précisément sur le texte maintenant que nous venons de lire. Est-ce qu'il dit vrai ? Ben il dit vrai, bien sûr, quand il dit cette libération de ces Hébreux vers 1250 avant notre ère, donc il y a fort longtemps, il y a plus de 3000 ans, il dit vrai sur cette libération tellement difficile à obtenir. Sur la peur de ne pas y arriver. D'ailleurs, selon la logique humaine, les Hébreux n'auraient pas dû pouvoir se libérer. Les Égyptiens étaient beaucoup plus puissants qu'eux. Et puis même en s'enfuyant la nuit comme ils l'ont fait, il y avait ce fameux obstacle, la mer Rouge, là comme un infranchissable. Devant eux, la mer. Derrière eux, les Égyptiens qui arrivent, avec toute leur puissance, à vue humaine, ça aurait dû se terminer là. Un petit espoir, quelques heures d'être libre, et puis la fin de l'histoire. Et pourtant, ce n'est pas la fin de l'histoire, puisque la mer s'ouvre, et l'histoire non seulement continue, mais s'épanouit et devient dans la liberté. Et au cœur de cette histoire, au cœur de cette peur, cette phrase que vous avez entendue, de Moïse qui dit à son peuple, peuple tétanisé par la peur, « N'ayez pas peur ». Tenez bon, résistez, disent certaines traductions, et vous verrez comment le Seigneur interviendra aujourd'hui pour vous sauver. C'est hors de logique rationnelle. Ils ont la mer devant eux et les Égyptiens derrière eux, et Moïse leur dit « N'ayez pas peur ». C'est hors de propos, et pourtant, cette confiance auquel Moïse les invite, c'est ça qui va les aider à ne pas céder complètement à la peur. Laquelle peur aurait été de repartir en arrière. Parce que nous savons bien que quand nous avons peur, nous avons plutôt envie de revenir dans ce que nous connaissons, même si c'est l'esclavage, plutôt que de tenter de continuer vers devant, vers un avenir peut-être meilleur, mais tellement inconnu. Tenez bon, n'ayez pas peur, leur dit Moïse. Et voilà que l'impossible devient possible. Ils peuvent passer à travers la mer. Alors comment cela a-t-il pu se passer ? Il y a certains chercheurs qui essaient de trouver une explication rationnelle et qui se disent ça peut arriver, non pas à la manière d'Hollywood, mais de manière plus prosaïque, que dans des zones marécageuses à l'est de l'Égypte, il y ait pu avoir une très très forte marée d'équinoxe et que le vent ait soufflé et que l'eau ait pu s'écarter, que les Hébreux aient pu passer, mais que les Égyptiens, ensuite arrivant avec leurs armes et leurs chars, se soient embourbés et que quand la mer revient, il n'ait pas pu passer. Une tentative d'explication rationnelle, sans doute assez fidèle à l'événement, mais en fait, peu importe. Parce que ce qui importe, c'est pas tellement de se dire comment ça s'est passé. Ce qui importe, c'est de dire c'est Dieu qui a traversé cette histoire. C'est Dieu qui leur a donné confiance et qui leur a permis d'être en liberté. Ce qui compte, ce n'est pas la reconstitution de l'événement, c'est la foi qui est transmise par rapport à cet événement. Leur foi, c'est que c'est grâce au Seigneur. Juste en regardant à eux-mêmes, ce n'était pas possible. Mais dans la confiance reçue de Dieu, c'était possible. C'est une expérience tellement forte, je le dis juste rapidement en passant, qu'elle irrigue toute la Bible. Je prends trois exemples très vite. Premier exemple, le premier chapitre de la Bible, premier chapitre de la Genèse, récit de la création, qui a été écrit bien après la sortie d'Égypte. Eh bien, si on lit ce texte, on y trouve des parallèles, des choses similaires. Je vous le dis trop vite, on pourrait faire une étude biblique ensemble passionnante là-dessus. Il est question de confusion, de l'eau qui est partout, il est question de la vie qui va surgir quand le sec va apparaître parmi l'eau, il est question de la parole de Dieu qui ouvre la vie. Il est question de la terre ferme sur laquelle la vie va s'épanouir. Deuxième exemple, quand plus tard les Hébreux vont être en exil, emportés à Babylone, déportés à Babylone. Et là, le prophète Ésaïe va se lever et il va leur donner la promesse de Dieu avec ces paroles dans le livre du prophète Ésaïe. N'est-ce pas Dieu qui a asséché la mer, les eaux du grand océan? N'est-ce pas lui qui a tracé un chemin dans les profondeurs de la mer pour y faire passer ceux qu'il a libérés? Référence à l'Exode. Et alors Ésaïe continue, le Seigneur délivrera les siens, ils reviendront à Jérusalem et ils y entreront en criant de bonheur. Parce que autrefois, avec Moïse, Dieu a libéré son peuple, alors nous savons, déportés à Babylone, que nous reviendrons, parce que Dieu nous portera. Et puis troisième exemple, je le cite juste parce qu'on l'a étudié en partage biblique mercredi soir, ceux qui participent à ce groupe de partage biblique du mercredi soir, l'entrée après les 40 années de désert des Hébreux en terre promise, quand ils vont traverser le Jourdain avec Josué. C'est un parallèle tout à fait similaire, parce que les eaux vont s'écarter et Josué et les siens vont pouvoir traverser. Cette fois-ci, non pas avec les Égyptiens à leur trousse, mais avec devant eux la difficulté et la lutte qui va arriver, mais le regard tourné vers l'avenir. Je ferme la parenthèse de ces quelques exemples, mais pour dire, voilà, on pourrait trouver plein d'autres exemples dans la Bible où ce passage à travers la mer, qui donne la vie parce que c'est Dieu qui est là, eh bien ça irrigue plein et plein de passages bibliques. C'est une histoire vraie, parce que c'est l'histoire du peuple des Hébreux. Mais alors, et je termine par là, si c'est vrai pour eux, eh bien c'est que ça peut être vrai pour nous. Et c'est ça qui est le plus important encore, c'est que ça peut être vrai pour nous. Si nous regardons nos propres existences, eh bien nous pouvons avoir des moments dans nos vies qui sont similaires, qui ressemblent, où nous sommes esclaves. Alors ça peut être esclave de plein de choses, hein, mais parfois d'une douleur, ça peut être esclave d'une culpabilité, ça peut être esclave d'un passé qui nous fait mal et qui nous retient en arrière, ça peut être esclave d'une parole maladroite, ça peut être des tas de choses en fait qui nous retiennent et dont on aimerait se libérer et dont on essaye de se libérer et dont parfois devant nous on voit la mer, on voit l'infranchissable, on voit ou on croit que ce n'est pas possible, que ce n'est pas possible de dépasser ce qui nous plombe et qui nous pèse. Alors ce récit est là pour nous dire que ça peut être une histoire vraie, que ce qui nous paraît impossible et fermé puisse s'écarter, que l'on puisse passer, qu'il y a un au-delà de tout ce qui nous enferme. Et que tout ce qui est derrière nous et qui nous poursuit, ça peut-être, un jour, ne plus nous poursuivre, rester bloqué par la mer qui se referme. Ça peut être une expérience de nos existences. C'est pour la plupart d'entre nous une expérience que nous avons pu avoir. Alors des fois de manière spectaculaire, mais des fois des micro-expériences quotidiennes où nous pouvons aller au-delà de ce qui nous fait mal et qui nous fait souffrir. C'est pour cela que ce récit est vrai. Parce qu'il peut être vrai pour nous. Et s'il est vrai pour nous, alors il est forcément vrai pour d'autres. Mais la route est difficile. C'est une espérance qui nous est donnée. Mais nous cheminons encore, bien souvent, un ou deux pieds en Égypte, ou alors encore devant la mer qui est fermée, ou alors en n'osant pas trop encore mettre le bout d'un orteil dans la mer qui est en train de s'écarter. C'est difficile, la vie. Et il y a encore parfois et souvent des épreuves. Alors nous avons deux cadeaux qui nous sont faits, deux trésors qui nous sont donnés, que nous partageons dans la vie chrétienne. Nous les appelons les sacrements, parce qu'un sacrement, c'est quelque chose qui fait référence à Jésus-Christ, à sa mort et à sa résurrection. Ça se partage en Église, ça se célèbre, et c'est Jésus lui-même qui nous a proposé et invité à les vivre. Le premier sacrement, c'est le baptême. Quand nous avons été baptisés, la plupart d'entre nous ont été baptisés, peu importe que ce soit enfant, adulte, adolescent, peu importe que ce soit avec quelques gouttes d'eau sur la tête ou plongé complètement, peu importe. Le baptême, c'est un passage. L'eau, c'est le passage à travers l'eau qui nous fait quitter les rivages de la mort pour entrer dans les rivages de la vie, comme le Christ est passé par la mort pour nous ouvrir à la vie. C'est pour ça que nous utilisons de l'eau dans le baptême, ce symbole du passage. Et l'apôtre Paul, dans une phrase un peu compliquée, mais je vous l'ai mis sur les petits livrets de culte, vous pourrez les relire chez vous, Paul aux Corinthiens écrit ceci, aux chrétiens donc de Corinthe, « Je veux que vous vous rappeliez ce qui est arrivé à nos ancêtres du temps de Moïse. Ils ont tous été sous la protection du nuage, c'est-à-dire la nuée qui symbolisait Dieu, et ils sont tous passés à travers la mer Rouge, dans le nuage et dans la mer, dit Paul, ils ont tous été baptisés en communion avec Moïse. » Pour Paul, l'apôtre Paul, le passage à travers la mer Rouge, c'est déjà un baptême. Notre baptême, c'est ce passage, comme les Hébreux autrefois avec Moïse, en Jésus-Christ, à sa croix et à sa résurrection, entrer dans une nouvelle. Et parce que cette vie nouvelle est encore difficile, alors, parce qu'il y a encore des épreuves, alors on a besoin d'être accompagné sur cette route. Et l'apôtre Paul continue. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Ils buvaient en effet au rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était le Christ. Ils mangeaient et ils buvaient au Christ, nous dit l'apôtre Paul. Nous pouvons manger et boire régulièrement, dimanche après dimanche, dans ce deuxième sacrement qui nous est donné, qui fait référence lui aussi à la mort et à la vie, à la croix et à la résurrection, à l'impossible devenu possible, au passage qui est ouvert pour nous. Notre baptême, une fois dans notre vie, la Sainte Cène, autant de fois que l'on veut, ce sont ces deux signes que Dieu nous donne pour que cette histoire soit vraie. Oui, pour nous, c'est vrai cette histoire. Quels que soient nos esclavages, quoi que ce soit qui nous retienne en arrière, quoi que ce soit qui nous pèse et nous fait souffrir, quoi que ce soit qui devant nous nous paraisse infranchissable, il y a la parole de Dieu. Il y a l'avenir qui peut s'ouvrir. Il y a l'espérance qui nous est donnée. Il y a cette parole dite par Moïse et qui en Jésus-Christ pour nous ce soir est vraie. N'ayez pas peur. Tenez bon. Et vous verrez comment le Seigneur interviendra pour vous sauver. Oui, cette parole est vraie. Assurément. Amen.